Donc effectivement, ce soir, donc je souhaitais évoquer avec vous donc l'histoire plus contemporaine hein, du pèlerinage à la Mecque, et notamment dans sa relation avec les empires coloniaux européens, parce que c'est souvent une page d'histoire qui a été totalement oubliée. On a tendance effectivement à faire du Hajj une cérémonie, une institution exclusivement musulmane. Et les Européens, à une époque, effectivement, à un moment donné, ont été extrêmement présents dans l'organisation de ce pèlerinage, mais aussi dans différentes dimensions. Donc, comme vous le rappeliez, effectivement, j'ai sorti là en juin dernier un ouvrage justement sur Pèlerinage d'Empire, une histoire européenne du pèlerinage à la Mecque, qui est une thèse alors très très remaniée parce que ben, j'ai fait le pari de l'élargir également à d'autres empires, voire également l'Empire hollandais, l'Empire russe. Et des empires dont on parle moins, comme l'Empire italien, de l'élargir également dans le temps pour essayer de couvrir toute la période coloniale. Puisque c'est vrai que donc, cette histoire contemporaine du pèlerinage à la Mecque a longtemps été, je pense que les prédécesseurs ont dû vous en parler, un angle mort hein, de la recherche universitaire, même si on observe depuis une dizaine d'années un intérêt croissant pour cette problématique, effectivement, du Hajj à l'époque coloniale. On s'aperçoit que depuis le début des années 2010, hein, depuis le début de la décennie, le sujet de ce Hajj colonial a été traité à travers toute une série de publications, donc généralement en langue anglaise, qui concernent soit des aires régionales bien délimitées, hein, le pèlerinage à l'époque coloniale du sous-continent indien ou de l'Indonésie, ou alors effectivement qui concernent des empires spécifiquement, l'Empire russe ou l'Empire britannique. Donc on le voit, le Hajj est très souvent traité à l'intérieur d'un seul espace, qu'il soit régional ou impérial. Ce qui peut sembler un petit peu curieux, parce que quand on parle du pèlerinage à la Mecque, on a en tête ce flux incessant de pèlerins. Le pèlerin, par définition, c'est celui qui traverse les frontières, qui méconnaît les frontières. Le Hajj s'inscrit aussi, plus largement, dans un imaginaire qui transcende les frontières. Le Hajj se veut, c'est une institution universelle. Ce qui frappe les pèlerins quand ils arrivent à Jeddah, encore aujourd'hui, donc le port de la Mecque, c'est le caractère cosmopolite de cette ville. Donc ce choix historiographique est d'autant plus curieux que, comme l'a montré l'historien des empires, Pierre Saint-Garavelou, les empires coloniaux ont comme caractéristique, généralement, d'interagir les uns sur les autres, de s'observer, de se copier mutuellement, ce qui est effectivement le cas quand on étudie l'objet du pèlerinage à la Mecque. Alors ça pose effectivement un problème de type historiographique. Comment écrire une histoire européenne du pèlerinage à la Mecque ? C'est à mon avis, alors c'est mon point de vue, écrire ce type d'histoire serait écrire une histoire où les pratiques coloniales ne seraient pas juxtaposées, comme on voit parfois dans les colloques ou dans des ouvrages collectifs consacrés aux politiques musulmanes. Vous allez avoir un chapitre sur la politique hollandaise du Hajj, un chapitre sur la politique britannique. L'enjeu est, à mon avis, d'essayer de voir, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans la première partie, comment on peut essayer de faire une histoire commune du Hajj aux différents empires, en essayant d'examiner quelles sont fondamentalement les raisons qui ont poussé des empires européens à intervenir dans cette manifestation, dans ce rite fondamental de l'islam. Dans un deuxième temps, j'aimerais montrer, après avoir montré un petit peu cette histoire commune, comment ces politiques du pèlerinage qui ont été mises en place par les différents empires sont également le résultat de connexions spatiales et d'interactions entre ces empires, alors qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient sanitaires. On a l'impression finalement que le pèlerinage à la Mecque est un grand puzzle dont il s'agirait de rassembler les morceaux épars. Donc avoir une approche peut-être aussi plus dynamique et voir comment effectivement les pèlerins méconnaissent ces frontières d'empire et comment les empires eux-mêmes ou travaillent ensemble ou sont parfois dans des positions de rivalité ou d'imitation. Enfin, un autre constat, quand on regarde un petit peu l'historiographie du Hajj à l'époque coloniale, c'est qu'on s'aperçoit que souvent la part belle est faite aux empires qui ont envoyé le plus de pèlerins. Donc bien entendu l'Empire britannique, l'Empire hollandais, ce qu'aujourd'hui toujours l'Indonésie est le premier pays fournisseur de pèlerins, ou également l'Empire russe. Et on a tendance à oublier d'autres empires, d'autres puissances musulmanes, comme on disait à cette époque, leurs plus éphémères, par exemple l'Empire d'Autriche-Hongrie. Oubliez que l'Empire d'Autriche-Hongrie a effectivement... pendant plus de 30 ans, ministré une puissance, la Bosnie-Herzégovine, avec de nombreux musulmans, et a été amené à organiser le pèlerinage à la Mecque. On oublie généralement aussi l'Empire italien. L'Empire italien, alors il est effectivement très court, hein, il commence dans les années 1880, il s'arrête 1941, mais l'Empire italien est un empire musulman. En grande partie. Même en Éthiopie, vous avez une importante minorité musulmane. C'est parlé également lors de l'Empire espagnol. Et plus curieusement, c'est parlé aussi de l'Empire français, qui très curieusement a été très peu traité à ce jour, a été longtemps négligé, souvent limité d'ailleurs à la seule Algérie, alors que paradoxalement, l'organisation du pèlerinage français a peut-être été la plus poussée. La France a peut-être été de tous les empires le plus interventionniste en matière d'organisation du pèlerinage à la Mecque. Et c'est aussi probablement l'empire où la politique du pèlerinage a été la plus longue et la plus durable dans le temps. Et donc c'est ce dernier point, après avoir vu effectivement comment les différents empires interagissent un petit peu les uns avec les autres, à partir de ce jeu en quelque sorte d'échelle, voir quelle peut être la spécificité du pèlerinage français, qui à mon avis ne peut être saisie que dans la longue durée, et toujours en interaction avec les autres empires. Donc première partie, je vous le disais, la première question qu'on est amené à se poser quand on étudie un petit peu, on se penche sur cette curiosité qui est l'intervention poussée de l'Europe dans le pèlerinage à la Mecque, pourquoi l'Europe s'est-elle intéressée au Hadj? Quelles sont les différentes causes, elles sont nombreuses, qui ont motivé les empires coloniaux européens à prendre une part croissante dans ce pèlerinage. La première raison qui vient à l'esprit, bien entendu, quand on parle de la période coloniale, c'est l'encadrement des populations. L'encadrement des populations devient de plus en plus évident à partir du moment où les empires, où les États européens ont recours à l'armée pour s'étendre sur des territoires musulmans. Donc, pendant toute la première moitié du XIXe siècle, on commence à voir un intérêt pour le Hadj, au moment, par exemple, des guerres du Caucase, s'agissant de la Russie, au moment, à partir de 1825, de la guerre de Java avec l'Indonésie, commencent à être mis en place, à cette époque-là, les premiers passeports. Et puis, ça va concerner également la France, avec la colonisation de l'Algérie en 1830. Alors, la première décennie, le pèlerinage, en quelque sorte, est arrêté. Mais à partir de 1840, au moment notamment où Bugeaud va relancer la guerre contre Abdelkader, voilà un maréchal Bugeaud qui va organiser des déplacements à la Mecque pendant près de 6 ans pour les différentes élites musulmanes à cette époque-là. Et le passeport fait son apparition en 1846, à cette époque-là, pour justement encadrer les déplacements. Mais alors, qu'en est-il des Britanniques ? Les Britanniques, notamment en Inde, sont assez interventionnistes quand on voit un peu les archives de la Compagnie britannique des Indes orientales, donc dans la première moitié du 19e, au moment justement où les Britanniques s'étendent à l'intérieur de l'Inde et dans l'ouest de l'Inde. Et on voit par exemple dans les archives notamment des États princiers, des agents de la Compagnie britannique des Indes orientales qui vont déconseiller un certain nombre de princes musulmans de partir en pèlerinage. Donc, vous voyez, une intervention modérée et qui va cesser en 1857, au moment de la révolte des Sipayes, qui est un événement fondateur dans l'impérialisme britannique des Indes, puisque c'est vraiment, alors les Britanniques l'appellent une mutinerie, en Inde on appelle ça la Grande Révolte, mais les causes qui ont été identifiées de cette révolte à cette époque-là étaient des causes religieuses. Et donc on estime que le pouvoir colonial est allé trop loin dans l'ingérence, dans les rites religieux, qu'ils soient hindous ou musulmans. Et donc, à partir de 1857, la politique officielle des Britanniques va être de dire « Nous n'intervenons plus dans les affaires du pèlerinage ». Ou plus exactement, de manière plus subtile, on fait savoir aux musulmans de l'Empire, que les Britanniques vont courtiser de plus en plus, que l'on n'intervient pas. Et c'est une attitude, cette attitude affichée de non-intervention, qui va guider toute l'attitude britannique jusqu'à la Grande Guerre. Donc, encadrement colonial des déplacements avec l'exception britannique. L'autre raison qui se situe donc dans le prolongement naturel de cet encadrement des déplacements, c'est la protection diplomatique croissante des pèlerins. Effectivement, à partir du moment où on autorise les sujets musulmans des empires à quitter les empires, il faut qu'ils soient assurés de pouvoir bénéficier d'une protection diplomatique, notamment dans le grand port de la région, qui est le port de Jeddah. Donc c'est des raisons commerciales, mais ce sont aussi des raisons liées au pèlerinage qui vont inciter les États européens à ouvrir des consulats à Jeddah qui vont être les premiers consulats de la mer Rouge. Donc les Britanniques ouvrent leur agence consulaire en 1837. Les Britanniques ayant ouvert une agence consulaire, les Français se sont obligés d'ouvrir une agence consulaire à Jeddah deux ans plus tard, en 1839. Suit ensuite les Pays-Bas, en 1872, la Russie, en 1891, alors que jusqu'ici, ses intérêts étaient confiés à la France. Et puis enfin, l'Italie, en 1914. Alors, protéger les pèlerins à l'arrivée, à leur débarquement du port de Jeddah, c'est très bien, sauf que les consuls européens vont se heurter à un obstacle de taille, qui est que le pèlerinage à la Mecque est interdit aux non-musulmans, et qu'il existe un périmètre autour, effectivement, de la Mecque, la plaine de Arafat, qui est interdit aux non-musulmans de rentrer dans cet espace sacré. Donc que faire si on veut protéger et accompagner les pèlerins pendant qu'ils accomplissent leur rite de pèlerinage? C'est effectivement pour les consuls européens quelque chose d'assez frustrant. L'idée, on est à l'époque de la toute-puissance européenne, savoir que la protection diplomatique de l'Europe s'arrête au niveau de l'enceinte de la ville de Jeddah, ça pose effectivement problème. Alors, il y a tout un imaginaire à cette époque-là, autour de la cité interdite que vont véhiculer les voyageurs européens, des explorateurs, certains qui se veulent pèlerins, qui se convertissent à l'islam juste avant de franchir le périmètre sacré. Vous voyez, il y a tout un imaginaire un petit peu de l'aventure à cette époque-là qui joue beaucoup. Mais voilà, mais très concrètement, techniquement, que faire effectivement pour accompagner, garantir aux pèlerins un suivi administratif et sanitaire? Les Européens, les consuls notamment, vont avoir l'idée un petit peu de contourner cette interdiction, ce tabou, en nommant des agents musulmans en qualité de vice-consul, et notamment plutôt des musulmans qui sont des médecins, parce que comme on va le voir, la problématique sanitaire est également centrale dans les raisons qui ont poussé les puissances européennes à intervenir dans le Hajj. Donc on va envoyer, soit de manière permanente, ce que vont faire les Britanniques, on nomme comme vice-consul un médecin indien qui va pouvoir accompagner et suivre les pèlerins pendant la semaine du pèlerinage, ou alors on fait accompagner les pèlerins par des médecins musulmans. Il sera algérien dans le cas français. Il va notamment, docteur Taïm Morsli, livrer un certain nombre de rapports sanitaires très très intéressants à cette époque-là. Donc l'aspect sanitaire va devenir un élément effectivement central. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à cette époque-là, se développe tout au long du XIXe siècle, du fait de l'accroissement, du désenclavement du monde, de l'accroissement moyen de communication, les risques pandémiques, que ce soit aussi bien la peste ou le choléra, qui existe à l'état endémique, notamment dans le delta du Nil ou dans le delta du Gange. Donc, sachant que le nombre de pèlerins, comme on va le voir, augmente, que les conditions sanitaires des lieux saints sont très précaires, les Européens, à partir d'une grande pandémie de choléra en 1865, vont être en quelque sorte contraints d'intervenir. C'est ce qu'a très bien montré Sylvia Schifolo, qui vous a donné une conférence ici, qui est la grande spécialiste de cette thématique sanitaire. Les Européens vont se retrouver contraints, en quelque sorte, d'édicter un certain nombre de règles pour éviter la propagation du choléra. Parce qu'effectivement, le choléra, il peut être importé. On a de très nombreux pèlerins du Bengale qui voyagent sur des navires à vapeur. On arrive dans une province où les conditions sanitaires sont précaires, agglomération d'individus, de pèlerins. Donc, tout ça va créer un bain extrêmement propice à la diffusion du choléra. C'est ce qui arrive en 1865, à une véritable hécatombe à cette époque-là. Et on voit que depuis la Mecque, le choléra commence à se diffuser, remonte en Europe, Méditerranée orientale, et va même franchir l'Atlantique. Donc l'enjeu, ça va être, en quelque sorte, de réactiver un ordre sanitaire, des quarantaines maritimes. Cette médicalisation du Hadj va également inciter les puissances européennes à prendre des règlements sanitaires, notamment pour que les pèlerins puissent voyager dans les conditions sanitaires décentes. Alors, rappelons, vous voyez ici les deux quarantaines delta au Sinaï pour les pèlerins arrivant, ce qu'on appelle la voie du Nord, la Méditerranée, et l'autre quarantaine sur l'île de Camaran pour les pèlerins de l'océan Indien. Donc, conditions sanitaires, vous voyez, du pèlerinage, ce sont des photos qui datent du début du siècle, extrêmement décriées. Là, c'est le grand bassin de la plaine de Arafat, qui en principe était conçu pour que les pèlerins puissent faire leur ablution, vous voyez, qui sert également à autre chose. Donc, autant dire que c'est véritablement un élément de contagion très fort. Donc, cette médicalisation du Hadj se renforce, et vient en quelque sorte renforcer cette logique de protection diplomatique. On va voir, par exemple, pour prendre le cas de la France, à partir de 1860, les consuls de Jeddah, qui jusqu'ici étaient plutôt des orientalistes, deviennent des médecins sanitaires. Des médecins sanitaires qui sont attachés aux différents postes, aux différentes échelles de l'Empire ottoman, qui fait en même temps fonction, comme on dit, de vice-consul. Donc c'est une logique qui va disparaître dans les années 1880, où là, véritablement, il y a une professionnalisation du corps consulaire. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a toujours des médecins musulmans attachés au poste ou qui, à l'occasion du pèlerinage, accompagnent les pèlerins. Donc ce risque épidémique, ce risque sanitaire, est directement lié au développement sans précédent de la navigation à vapeur, ce qu'on a appelé la révolution de la vapeur. Le bateau à vapeur qui est introduit dans la Méditerranée au début des années 1830, et les Britanniques, voyant tout l'intérêt qu'ils ont effectivement à avoir des liaisons rapides et sûres, vont très largement encourager le développement de la navigation à vapeur depuis l'océan Indien. Et c'est une logique qui va bien sûr se renforcer tout au long des décennies, et notamment au moment de l'ouverture du canal de Suez en 1869. Et là, on est véritablement dans une logique d'échelle, avec de grandes compagnies de navigation, si bien hollandaises qu'anglaises, qui se créent, qui vont même fusionner entre elles à la veille de la Grande Guerre. La mer Rouge devient vraiment l'un des axes maritimes les plus fréquentés de l'époque. Et le navire à vapeur est très largement plébiscité par les pèlerins. Donc progressivement, comme vous l'a montré, je pense, Sylvia Schifolo, on assiste à un abandon de ce qu'étaient les routes traditionnelles du pèlerinage, la voie terrestre, qui est de plus en plus remplacée par la navigation à vapeur. Se développe tout un low cost, on pourrait dire, du pèlerinage. Les navires sont de plus en plus volumineux, le coût des trajets diminue de plus en plus, ce qui permet à un nombre croissant, comme vous le voyez ici sur ce tableau, des statistiques des arrivées maritimes dans le port de Jeddah. Donc on assiste véritablement à une massification du pèlerinage. Alors massification, tout est relatif. Avant la Grande Guerre, un grand pèlerinage, c'est 300 000 pèlerins. Aujourd'hui, un grand pèlerinage, c'est 2 300 000. Aujourd'hui, vous avez bien sûr le bateau, vous avez l'avion, l'automobile, les cars. Mais voilà, à cette époque-là, disons que l'économie du pèlerinage se fond un petit peu dans cette ouverture commerciale l'Asie. Et donc, on assiste un petit peu, il y a une convergence d'intérêts entre les compagnies de navigation européenne qui voient dans ce nouveau marché du pèlerinage quelque chose de tout à fait intéressant, intérêt pour les administrations coloniales, parce que avoir des pèlerins sur un bateau, c'est pouvoir mieux les encadrer, c'est pouvoir mieux les surveiller depuis le point de départ jusqu'à l'arrivée, et intérêt également des consuls qui vont essayer de promouvoir ces nouvelles voies du pèlerinage, ces voies de la vapeur, ces voies maritimes, qui sont pour eux beaucoup plus sûres que les voies terrestres. Parce que très souvent, les pèlerins, quand ils font leur rite à la Mecque, en profitent pour aller rendre une visite, ziyara, à Médine, pour voir la tombe du prophète. Et il s'agit de reprendre effectivement les chameaux. C'est une longue route périlleuse, avec très souvent des tribus bédouines qui, en quelque sorte, prélèvent en nature quand elles n'ont pas été payées par l'Empire ottoman. Donc les consuls vont encourager les pèlerins, une fois les cérémonies du Hajj accomplies, à repartir depuis Jeddah pour aller un peu plus au nord, dans le port de Yambo, qui est le port de Médine, pour essayer d'éviter justement ces phénomènes de razzia bédouine. Il y a certains même consuls qui ont cherché à innover, c'est le cas de ce consul français, Lucien Labosse, qui a tout simplement recommandé d'inverser les séquences du pèlerinage. Et pourquoi est-ce que les pèlerins, notamment de la voie du nord, ne commenceraient pas par Médine pour ensuite enchaîner par les cérémonies du Hajj à la Mecque? Bon, sa proposition n'a pas été retenue. Mais vous voyez à quel point les consuls sont même les grands promoteurs de cette voie maritime. Et enfin, donc on va voir émerger plus tardivement, à partir de la Grande Guerre, d'autres causes, d'autres facteurs qui sont liés à des considérations, je dirais, beaucoup moins matérielles, plus informelles. D'une part, des conditions géostratégiques. Parce que, oui, quelque chose de très simple. Après la Grande Guerre, on estime qu'avec les progrès de la vaccination, les progrès de la médecine, le risque épidémique a diminué. Dès lors, qu'est-ce qui peut justifier l'ingérence des puissances européennes dans l'économie du pèlerinage à la Mecque? Qu'est-ce qui peut le justifier? Le fait, tout simplement, que les empires européens, notamment la France et l'Angleterre, s'étendent après la guerre. C'est la disparition de l'Empire ottoman. La France et l'Angleterre récupèrent les mandats arabes de l'Empire ottoman. La province du Hedjaz, donc la province des villes saintes de la Mecque et Médine, province gouvernée par le shérif hachémite Hussein, devient un quasi-protectorat britannique. Donc l'Europe s'implante, étend son aire d'influence dans la région, mais en même temps, avec la disparition du Moyen-Orient, de l'Empire ottoman, pardon, le Moyen-Orient devient une région beaucoup plus instable. C'est ce que va montrer notamment la guerre entre les hachémites et les saoudiens en 1924-1925, au moment où effectivement le roi Abdelaziz, appelé Ibn Saoud, va prendre possession de la province du Hedjaz. Donc une région instable et une région aussi de plus en plus stratégique à partir des années 1930 du fait des hydrocarbures, naturellement, à cette époque-là. Donc les puissances européennes ont tout intérêt à conserver un élément d'influence dans la région. Et de fait, on voit dans l'entre-deux-guerres que jusqu'ici, les administrations qui s'occupaient du pèlerinage étaient plutôt en des administrations coloniales, on va dire, donc l'India Office pour les Britanniques, le ministère de l'Intérieur pour la France. Et à partir de la Grande Guerre, c'est de plus en plus les ministères des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, le Foreign Office, qui vont directement coordonner les déplacements à la Mecque. Donc on voit bien tout l'intérêt diplomatique et stratégique que peut représenter le Hajj. Et puis j'ai envie de dire plus symboliquement aussi, avec la disparition de l'Empire ottoman, c'est aussi la disparition de l'institution califale à cette époque-là. Donc sous le coup du kémalisme, c'est la fin du califat. Le calife ottoman était le protecteur, le serviteur des villes saintes et le protecteur du pèlerinage à la Mecque. Vous vous souvenez du chemin de fer du Hedjaz que le sultan Abdulhamid II avait favorisé, notamment en encourageant un financement qui soit exclusivement musulman. Avec la fin du califat, c'est la fin aussi de cette autorité symbolique et fédératrice. Et alors, on est en droit de se demander si les empires européens ne se sentent pas en quelque sorte investis d'une nouvelle forme de responsabilité à l'égard des pèlerins. Alors, cette responsabilité rejoint bien entendu des objectifs de propagande coloniale. C'est pour ça qu'on peut, à mon avis, à partir des années 1920-1930, commencer véritablement à parler de pèlerinage d'empire. C'est d'ailleurs frappant quand on regarde les rapports des consuls français ou britanniques. Avant la Grande Guerre, les Français parlaient surtout du pèlerinage de l'Algérie. Les Britanniques parlaient surtout du pèlerinage de l'Inde. Dans l'entre-deux-guerres, quand on regarde ces rapports, ben on s'aperçoit que de plus en plus, ce sont les pèlerins des différentes provinces des empires qui font leur apparition dans les rapports et qui, effectivement, obtiennent en quelque sorte cette existence administrative et politique. Et donc, à une époque, les années 30 aussi, où les contestations, l'anticolonialisme émergent, les empires coloniaux voient tout l'intérêt en termes de propagande coloniale qu'ils peuvent avoir à favoriser le pèlerinage à la Mecque. Dans les années 30, on est en pleine dépression. Seuls les pèlerins riches peuvent se permettre le voyage à la Mecque. Et donc, effectivement, les empires coloniaux y voient une opportunité, en quelque sorte, pour donner une image favorable, pour soigner, en quelque sorte, leurs pèlerins. On va affréter non plus des navires de marchandises, mais de véritables paquebots à cette époque-là. On va organiser des croisières, on va essayer de flatter les élites musulmanes pour qu'elles, effectivement, elles donnent une image aussi, elles colportent, elles véhiculent une image positive de la politique musulmane des empires. C'est un petit peu comme si on était passé, vous voyez, du low cost de l'avant-grande guerre mondiale au tour opérateur des années 1830. Il y a quelque sorte des croisières d'empire qui se montrent à cette époque-là. Et après avoir plutôt maltraité les pèlerins qui avaient à subir les quarantaines maritimes et les examens parfois avant de partir en pèlerinage ou au retour du pèlerinage, on va en quelque sorte soigner ces pèlerins, être attentif à leurs besoins. Si bien que dans ces années 30, chaque empire est en quelque sorte convaincu d'être celui qui organise le mieux le pèlerinage, et tout est fait pour que, effectivement, ces pèlerins soient de plus en plus couverts, hein, ne fréquentent pas entre pèlerins des autres empires. Ce qui revient en quelque sorte à... Alors, on a l'impression qu'effectivement, il y a d'avoir affaire à une clientèle captive. Là, encore une fois, il ne s'agit que d'un épisode. Si on regarde sur le temps long, on s'aperçoit qu'en réalité, comme je vous le disais en introduction, les empires n'ont cessé d'interagir les uns avec les autres. Donc, ça sera ma deuxième partie des empires interdépendants. Il y a effectivement un effet de source, comme on dit, pour les historiens. Quand on lit parfois les archives, on a l'impression, les archives françaises, qu'on ne parle que du pèlerinage français, les archives britanniques, les rapports des consuls, qu'on ne parle effectivement que de l'Empire britannique. Là, il faut être effectivement assez méfiant, parce que la réalité, une nouvelle fois, du pèlerinage est tout autre. Je vais vous prendre effectivement trois exemples précis. Le premier, il est spatial. Le second, il est lié au consul de Jeddah, des réseaux consulaires. Et le troisième exemple, c'est la question tout à fait stratégique des hôtelleries des pèlerins à la Mecque. Donc, premier exemple, des espaces impériaux connectés, où je vais examiner ce qu'on appelait la voie de mer, mais aussi la voie de terre. Donc le pèlerinage, le développement du pèlerinage à la Mecque est indissociable hein, du développement également, de l'expansion commerciale de l'Europe à cette époque-là. Les ports se développent, notamment les ports en eau profonde. C'est le cas, bien entendu, pour la grande puissance commerciale qu'est l'Empire britannique. C'est le cas, comme on le voit, avec le port de Singapour. C'est le cas également d'autres ports, des ports en Inde, comme le grand port de Bombay, mais aussi le port de Karachi, dans l'actuel Pakistan. Les ports deviennent effectivement de plus en plus modernes et sont capables d'accueillir un nombre croissant de voyageurs. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, 19e siècle, les Britanniques ont fait le choix d'un interventionnisme minimum. Ils ne souhaitent pas effectivement que cette ingérence soit en quelque sorte mal vécue par les musulmans de leur empire. Et donc ils ont fait le choix, par exemple, dans un premier temps, de ne pas imposer de passeport. On s'aperçoit que, alors que le passeport est obligatoire en Russie, au pays, en Indonésie ou en Algérie, il est facultatif au départ de l'Inde. Donc à partir du moment où vous avez des conditions administratives qui sont très peu contraignantes, à partir du moment où vous avez des ports qui sont modernes, avec de nombreux navires, des liaisons fréquentes avec Jeddah et la mer Rouge, vous pensez bien que ça va créer un appel d'air pour les différents pèlerins, y compris des autres empires. C'est ce qu'on voit par exemple avec le port donc, de Singapour. On va voir de très nombreux pèlerins indonésiens, on les appelait les Javanais à cette époque, chercher à s'embarquer depuis Singapour pour justement essayer de contourner toute la réglementation imposée par l'administration coloniale hollandaise. Je vous ai dit également que la Russie, très tôt, était intervenue, avait imposé un passeport. Et ben, on voit à cette époque, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, aussi de nombreux pèlerins d'Asie centrale. On sait que la Russie s'étend progressivement, hein, ce qui va être effectivement le Turkménistan à cette époque, mais on voit de nombreux sujets musulmans russes, ben, ne pas hésiter à passer par l'Afghanistan pour aller rejoindre directement les ports de l'Empire des Indes. Donc il y a un appel d'air contre lequel, effectivement, il faut essayer de trouver des solutions. Donc, pour prendre le cas du pèlerinage malais et indonésien, la question est d'autant plus complexe que très souvent, les pèlerins malais et les pèlerins indonésiens peuvent voyager sur les mêmes navires. Donc là, l'affaire va se régler de façon plutôt consensuelle entre les autorités britanniques d'Inde et les autorités hollandaises d'Indonésie. Et donc, on va procéder à une harmonisation, notamment, de la réglementation. Et les Britanniques, notamment, et le gouverneur dans ce qu'on appelle l'établissement des Détroits, va adopter une réglementation plus contraignante qui impose notamment l'usage du passeport, l'obligation de détenir un billet d'aller et retour pour essayer de s'adapter en quelque sorte à la réglementation hollandaise. En revanche, l'affaire est plus délicate, plus conflictuel entre la Grande-Bretagne et la Russie, puisque dans cette moitié, cette deuxième moitié du XIXe siècle, on assiste à ce qu'on appelle, vous savez, le grand jeu, disait à cette époque-là, c'est-à-dire une rivalité d'influence entre la Russie et les Britanniques en Asie centrale, alors que ça soit en Perse, que ça soit en Afghanistan à cette époque-là. Donc pour les Russes, effectivement, ça pose un problème en termes de tutelle coloniale, de voir autant de pèlerins d'Asie centrale franchir les frontières pour aller effectivement dans les ports britanniques. Les Britanniques ne disent rien, bien entendu. Ils y voient un élément d'influence considérable en Asie centrale. Donc cet appel d'air, cette non-intervention britannique profite directement aux Britanniques. Donc que vont essayer de faire les Russes? Ils vont essayer de créer de toute pièce une espèce de route impériale du pèlerinage en détournant, comme vous le voyez ici, notamment par le biais des chemins de fer, les pèlerins d'Asie centrale pour les inciter à aller s'embarquer en mer Noire. Et on va voir le port d'Odessa qui va devenir effectivement un hub à cette époque du pèlerinage russe. Donc on va créer en quelque sorte une route officielle. C'est l'époque aussi où après la guerre de Crimée se développe toute une marine marchande russe qu'il s'agit de promouvoir. Et donc de façon un peu autoritaire, on va en quelque sorte pousser, inviter très largement les pèlerins à prendre un billet de chemin de fer et après aller s'embarquer directement depuis la mer Noire. Donc c'est une opération qui va être un échec, parce qu'on va essayer d'accorder une concession à un entrepreneur qui va s'avérer un peu véreux, et puis effectivement parcourir, vous voyez, 3, 5, 10 000 kilomètres en chemin de fer, alors qu'il existe déjà des routes via l'Afghanistan, il y a assez peu de pèlerins qui finalement vont plébisciter ce type d'organisation. Donc c'est un échec qui incitera, notamment, entre autres raisons, bien entendu, l'URSS, après, à interdire, effectivement, le pèlerinage à la Mecque à partir des années 1930. Dans un premier temps, effectivement, les Soviétiques voyaient tout un intérêt en termes de propagande à favoriser le Hajj, avant de chercher à l'interdire dans un second temps. Donc vous voyez, tout le problème, les pèlerins méconnaissent les frontières et contraignent en quelque sorte les empires à s'adapter, alors je dirais de façon souple en modifiant leur réglementation, ou alors essayer de mettre en place de toutes pièces de nouvelles routes du pèlerinage. Qu'est-ce qu'il en est du pèlerinage terrestre, de ce qu'on appelle à cette époque la voie de terre ? Elle est très présente, bien entendu, dans le pèlerinage d'Afrique subsaharienne. J'ai envie de dire, depuis l'implantation de l'islam en Afrique de l'Ouest, jusque dans les années 50-60, où c'est de plus en plus l'avion qui va prendre le pas sur les itinéraires terrestres. Le pèlerinage d'Afrique de l'Ouest est un pèlerinage qui est assez spécifique, parce que vous voyez un peu l'immensité des distances à parcourir. Donc c'est un pèlerinage qui est extrêmement long et qui est souvent entrecoupé de haltes, notamment de haltes économiques. Et donc beaucoup de pèlerins, ce qu'on appelle à cette époque des takrouris, c'est l'empire du takrour des pèlerins d'Afrique de l'Ouest, décident d'entreprendre le pèlerinage, mais le pèlerinage, il faut le financer. Et donc ils vont s'arrêter, par exemple, dans les champs de coton qui commencent à être mis en place dans le Soudan anglo-égyptien pour se constituer un capital. On va rester un an, deux ans, et une fois qu'on aura ce capital, entreprendre le pèlerinage aux villes saintes de l'islam. Donc, vous voyez, c'est une logique qui satisfait tout à fait les autorités britanniques, parce qu'ils peuvent ainsi disposer de main-d'œuvre pour développer les champs de coton. Ce sont des flux qui vont profiter au port, vous voyez ici j'ai entouré en rouge, de Souakine, et puis aussi à la place, au port qui va être construit, a commencé à être construit sous le métallique, qui va être renforcé après par les Britanniques, de Port-Soudan, où les Britanniques vont créer une station quarantenaire pour justement faire un certain nombre d'examens médicaux avant le franchissement de la mer Rouge. Sauf que créer une quarantaine à Port-Soudan, c'est créer effectivement des contraintes pour les pèlerins. Les pèlerins ont souvent peur de ces quarantaines, où ils sont immobilisés pour une durée qui peut être extrêmement longue, où souvent ils sont obligés d'acheter des denrées à des prix excessifs, où ils ne sont pas toujours bien traités. Donc il y a souvent une logique qui est d'essayer de contourner ces quarantaines maritimes. Et c'est ce que vont précisément essayer de faire les pèlerins d'Afrique de l'Ouest, notamment dans les années 30, en essayant de descendre un petit peu plus au sud, notamment dans l'Érythrée, qui à cette époque-là est une colonie italienne. Et comme l'Italie fasciste souhaite développer cette province qui est très pauvre, elle accueille effectivement à bras ouverts cette main-d'œuvre économique. Donc ça pose, voyez, un problème en termes de contrôle des déplacements et en termes d'encadrement sanitaire. Et donc au début des années 1930, on va voir autour d'une table la France, les Français, les Britanniques et les Italiens essayer de trouver des solutions. Et vous vous en doutez, les Italiens traînent un petit peu des pieds puisqu'ils profitent directement de ces flux de pèlerins. Donc essayer de trouver des solutions communes pour résoudre, en quelque sorte, ces questions. Ces solutions communes, on ne les trouve pas uniquement, je dirais, en matière de déplacement des pèlerins. On les trouve également au point d'arrivée, c'est-à-dire au sein des réseaux consulaires de Jeddah. Les consuls européens de Jeddah, c'est vraiment la cheville ouvrière du pèlerinage, des politiques européennes du pèlerinage. Simplement, à la différence d'autres échelles de l'Empire ottoman, venir au XIXe siècle, les consuls européens de Jeddah sont un petit peu condamnés à vivre ensemble. Parce que généralement, la plupart du temps, ils ne sont pas musulmans. Donc, ils ne peuvent pas franchir le périmètre interdit. Donc ils sont en quelque sorte cantonnés dans ce qu'on appelle le quartier des consuls, qui se situe à l'époque, il a aujourd'hui été détruit, même si il reste encore une bonne partie hein, de la vieille ville de Jeddah, le Balad, hein, qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le quartier des consuls, lui, a été détruit. Et on voit que les consuls, effectivement, sont cantonnés hein, tout à fait au nord de la ville. Et ces consuls ont l'impression, comme le dirait un consul, d'être un peu dans un pénitencier dans le désert, quoi. Vraiment d'être claquemurés, enfermés dans cette ville de Jeddah. Et ils ont l'impression de vivre dans un environnement hostile, puisque déjà les autorités ottomanes ne reconnaissent pas leurs compétences au-delà de l'enceinte de la ville. Et puis, ils ont l'impression que les musulmans de Jeddah les regardent effectivement d'un œil hostile. Hein, qui sont ces chrétiens qui résident dans le port de la ville sainte de la Mecque. Donc ils sont dans l'impression d'être extrêmement mal perçus, d'être insultés quand ils se promènent dans le bazar, voire parfois menacés de mort. Et donc il est fréquent que ces consuls demandent à leurs ambassades d'envoyer des canonnières pour faire preuve d'autorité en mer Rouge et pour essayer d'asseoir un petit peu leur autorité. Mais je dirais que ça va avoir des effets contre-productifs puisque cette présence européenne est mal ressentie. Ce qui est mal ressenti aussi, c'est que les consuls sont là pour protéger les intérêts maritimes des empires, mais aussi les intérêts maritimes de marchands, par exemple de marchands indiens ou de marchands grecs, qui au titre des capitulations sont protégés par les Européens. Ces marchands grecs, ces marchands indiens sont vécus comme des rivaux par les marchands arabes de Jeddah. De même, les populations plus largement, les populations du Hedjaz, les populations bédouines, voient d'un très mauvais œil ces réformes sanitaires qui sont en train de se mettre en place. Toutes ces stations quarantenaires, ces étuves, elles y voient à la fois un manque à gagner et puis aussi une pression très forte, une invasion en quelque sorte, une de croisade médicale. Donc tout ça contribue à une atmosphère qui est ressentie comme une atmosphère d'hostilité, alors qu'il se traduit parfois, vous avez effectivement des fièvres, des émeutes, voire effectivement des épisodes plus meurtriers, comme la révolte de 1858, où les consuls français et anglais sont défenestrés, ou en 1895, des Bédouins qui décident de s'en prendre directement à des médecins sanitaires européens. Donc tout cela va créer un sentiment de solidarité assez fort entre les consuls européens de Jeddah. Vous voyez, quand on craint pour sa vie, on se réfugie souvent chez le voisin, chez le consulat hollandais ou dans le consulat français. Et donc ces consuls européens se considèrent un petit peu comme des agents civilisateurs dans un territoire barbare. Les rapports consulaires sont extrêmement critiques à l'égard de ce qu'ils appellent l'incurie des autorités ottomanes et puis la barbarie des tribus bédouines. Et donc ils prennent leur mission de protection de pèlerins à cœur. C'est eux qui protègent les pèlerins contre les escroqueries des guides du pèlerinage, contre les escroqueries des courtiers maritimes, quand les consuls ne sont pas eux-mêmes les représentants de maisons commerciales. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, cette sociabilité forcée des consuls de Jeddah va encourager une diffusion des bonnes pratiques en matière d'organisation du pèlerinage. On va, en quelque sorte, s'emprunter des bonnes recettes en termes d'ingénierie administrative. Par exemple, les Hollandais sont particulièrement inventifs en la matière. Ils ont créé un système de passeport, ça s'appelle le passeport à voler, qui permet effectivement au consul de conserver la trace du passeport du pèlerin quand il arrive à Jeddah. Le pèlerin a son passeport, le consul en quelque sorte a un reçu. Donc c'est une idée assez astucieuse au moment où les passeports sont souvent confisqués et parfois même dérobés par d'autres pèlerins. Il y a toute une espèce de circulation des identités administratives. Donc on a trouvé ce système ingénieux hein, du passeport à voler. C'est aussi, par exemple, sous l'influence hollandaise que la photographie commence à être introduite sur les pièces d'identité. Et aussi cette idée assez astucieuse des empires européens qui est le billet aller-retour. On va faire obligation aux pèlerins, quand ils décident de partir accomplir leur pèlerinage, d'acheter un billet aller-retour. Pourquoi ? Tout simplement pour pas que les pèlerins des empires aient la tentation de rester trop longtemps au Hedjaz. Parce que certains profitent de leur pèlerinage pour pratiquer leur hégire, c'est-à-dire pour quitter définitivement l'Empire. Donc on fait obligation aux pèlerins d'acheter donc les Hollandais, puis les Français, les Britanniques dans l'entre-deux-guerres, un billet aller-retour pour être sûr effectivement que les pèlerins ne resteront pas trop longtemps dans les villes saintes du Hedjaz. Aujourd'hui, ça existe, hein, toujours. En Arabie Saoudite, ça s'appelle un visa à durée limitée à cette époque. D'accord ? Donc le billet aller-retour, et puis effectivement également l'imposition pour éviter qu'il y ait des pèlerins indigents, d'un means test, un test de moyens. On va faire, ce sont les Hollandais qui ont introduit cette idée, qui a été reprise par les Français. On fait obligation aux pèlerins, début de pèlerinage, de se munir d'un pécule, d'avoir une somme suffisante pour pouvoir couvrir toutes leurs dépenses au Hedjaz. Et donc, pour ne pas se retrouver dépourvus, indigents, comme on disait à cette époque, à la fin du pèlerinage. Et c'est là, précisément, j'ai envie de dire, l'une des principales difficultés auxquelles se heurtent les consuls de Jeddah. Ben, c'est qu'en fin de pèlerinage, vous avez de très nombreux pèlerins qualifiés d'indigents qui vont frapper à la porte du consulat pour demander leur rapatriement, alors qu'ils n'ont plus de billets ou qu'ils n'ont pas de billets retour. Que faire ? On ne va pas les laisser sur place, parce qu'effectivement, ça fait mauvais genre vis-à-vis des autorités ottomanes. Les rapatrier tous, ça a un coût, et puis ça peut être conçu comme une incitation, vous voyez, à contourner les règles qui ont été établies au départ. Donc là, on se heurte à un véritable problème administratif. Alors, à lire les rapports, les Hollandais connaissent assez peu ce problème. Par contre, ce qui n'est pas le cas de la France, parce qu'on va le voir, le pèlerinage est assez réglementé et donc il va favoriser en quelque sorte tout un pèlerinage clandestin. Beaucoup de pèlerins partent en pèlerinage sans en avoir les moyens. Et face au, pour les Britanniques, on se heurte à un problème, j'ai envie de dire, culturel, qui est un problème lié à une ancienne coutume de l'Empire moghol, qui était qu'un certain nombre de princes musulmans de l'Empire moghol, souvent, avaient toute une tradition d'offrir l'aller, d'offrir le voyage aller à des pèlerins pauvres qui n'auraient pas eu sans ça les moyens d'accomplir leur pèlerinage. Donc vous voyez un acte en quelque sorte de charité à cette époque-là, sauf que très souvent, bah, on n'offrait que le voyage aller et pas le voyage retour. Et vous voyez, cette coutume en quelque sorte perdure au XIXe siècle et les Britanniques, effectivement, comme je vous l'ai dit, sont au début plutôt peu interventionnistes et ne savent pas tellement comment gérer ce problème. Donc, effectivement, à défaut d'interdire ou de restreindre le pèlerinage, ils vont avoir l'idée de recourir à la charité privée, notamment en s'appuyant sur la communauté importante des marchands indiens qui se trouvent à Jeddah et à la Mecque, qui vont créer des fonds privés pour venir en aide à leurs compatriotes dans le besoin. Et ce que voyant, le consul de France va aussi avoir l'idée aussi de créer une caisse de secours pour les pèlerins maghrébins. Il va essayer de s'appuyer notamment sur des marchands algériens du Hedjaz, mais l'affaire tourne court. Et donc, c'est à ce moment-là, juste avant la Grande Guerre, qu'un consul va avoir l'idée de créer une hôtellerie pour les pèlerins pauvres, une hôtellerie maghrébine, des pèlerins à la Mecque. Donc c'est le dernier point, les logiques mimétiques, les convois officiels de la France pendant la Grande Guerre et la question des hôtelleries. Donc les empires, on les a vus tour opérateur, voilà maintenant des empires qui veulent effectivement héberger les pèlerins pauvres. Cette question des hôtelleries va devenir un enjeu symbolique pendant la Grande Guerre, au moment où éclate la révolte arabe de 1916. La révolte, vous savez, du shérif Hussein, qui a été très largement encouragée par les Britanniques et qui va être soutenue par les Alliés. Alors, cette révolte arabe, donc de juin 1916, elle prend un petit peu les Alliés par surprise. Elle intervient un mois après l'accord secret, Sykes-Picot, par lequel, vous le savez, la France et la Grande-Bretagne se sont partagées par anticipation le Proche-Orient. Et donc la France revendique une zone d'influence au Liban et en Syrie. Par conséquent, pour les Français, soutenir la révolte arabe, c'est l'occasion déjà de poser un premier pied dans la péninsule. Le seul problème, c'est que les Britanniques, qui sont toujours très réticents quand il s'agit de pèlerinage à la Mecque, ne souhaitent pas un soutien armé massif. Ils ne souhaitent pas déplaire notamment aux musulmans indiens qui se sont montrés plutôt loyaux en ce début de guerre, là où le cher Ouli Islam, l'autorité religieuse de l'Empire ottoman, avait appelé sur pression des Allemands au djihad. Donc il ne faut surtout pas montrer que les empires sont trop présents militairement. Il faut surtout montrer que l'intervention alliée va respecter l'islam. Et donc la réouverture du Hajj, qui intervient cette année-là en octobre 1916, intervient à point nommé pour montrer justement, pour que les alliés puissent montrer tout l'intérêt qu'ils prêtent à cette manifestation religieuse. Les Britanniques souhaitaient dans un premier temps simplement accorder des facilités pour les musulmans de leur empire et notamment les soldats indiens pour qu'ils puissent se rendre en pèlerinage, là où le pèlerinage avait dû être interrompu en 1915 pour cause de guerre à proximité du canal de Suez. Simplement, les Britanniques vont être pris de court par une initiative française qui vient notamment du président du Conseil, ministre des Affaires étrangères à cette époque-là, Aristide Briand, qui va décider d'envoyer au lieu saint de l'islam une délégation officielle de la République française. Donc il s'agit de matérialiser le soutien de la France à la révolte arabe. Il y a une mission diplomatique qui va être présidée donc, par Sikandour Ben Gabrit, qui est le chef du protocole du sultan du Maroc. Il va y avoir également une mission militaire. Et pour essayer d'habiller en quelque sorte cette initiative, on va reprendre ce projet d'hôtellerie à la Mecque. On va dire que cette mission politique a pour objectif premier d'acquérir une hôtellerie à la Mecque pour héberger les pèlerins indigents. L'intérêt, puisque c'est aussi une initiative, on le voit, du Quai d'Orsay, c'est que disposer d'une hôtellerie à la Mecque, une hôtellerie, il faut bien qu'il y ait une personne qui s'en occupe, un curateur. Ce curateur, si vous lui donnez un statut de vice-consul, ça fait quoi ? Ça veut dire que la France va avoir un représentant diplomatique à la Mecque, directement, au sein de ce qu'on appelait encore au 19e la cité interdite. Donc vous voyez, il y a un intérêt diplomatique direct, un intérêt stratégique hein, par rapport à l'enjeu, à l'objectif, effectivement, qu'est la Constitution d'une zone d'influence plus au nord. Donc c'est une initiative du Quai d'Orsay qui reçoit le soutien de Lyoté au Maroc, mais qui est assez critiquée, notamment en Algérie, puisqu'en principe, l'Algérie tombe sous le coup de la loi de 1905, qui, on sait, ne sera jamais appliquée en Algérie, mais bon, prend prétexte de son non-respect la loi de 1905 pour critiquer cette initiative. Et c'est surtout une initiative qui inquiète les alliés. On pensait que la France allait simplement favoriser le pèlerinage des musulmans. On s'aperçoit que la France souhaite s'implanter dans les lieux saints de l'islam. Donc que vont faire les Britanniques en réaction à cette initiative française ? Ils vont décider, voici ici l'hôtellerie hein, qui a été acquise par la France en 1917. On a quelques photos et quelques plans dans les archives. Donc que vont faire les Britanniques ? Ils vont essayer l'année suivante, en 1917, de noyer cette initiative française sous un déluge de pèlerins originaires de l'Empire britannique. Et donc on va encourager très largement les soldats musulmans d'Inde, mais aussi les soldats du Soudan, comme vous voyez ici, à faire leur pèlerinage. On va organiser, notamment, on va orchestrer tout le déplacement du Marmal, vous savez, le convoi égyptien sur un croiseur britannique. Donc, vous voyez, là, on souhaitait une initiative discrète. Les Français ont en quelque sorte contraint les Britanniques à également s'impliquer davantage en matière de pèlerinage. Et ce qui est tout à fait étonnant, ce que j'ai découvert aussi dans les archives, c'est que les Italiens vont littéralement plagier l'initiative française. Vous savez que l'Italie rejoint le camp des Alliés en 1915. En 1916, elle est un petit peu prise de court, elle n'a pas le temps d'organiser un pèlerinage. Elle a tout juste commencé à organiser son pèlerinage. En Italie, le premier pèlerinage de l'Empire italien, c'est 1914. C'est le pèlerinage des Tripolitains. À la dernière minute, on a copié, on a pris quelques bonnes idées aux Français, aux Hollandais et aux Britanniques. Donc, les Italiens ont encore assez peu d'expérience en la matière. Par contre, en 1917, ils décident d'organiser une délégation officielle, composée donc d'Érythréens, de Somaliens, de pèlerins originaires donc de Tripolitaine et de Cyrénaïque, l'actuelle Libye, qui vont acheter une hôtellerie et qui va être gérée exactement sur le même modèle que l'hôtellerie française, à travers une société des Habous, avec les biens de ma morte, hein, qui est établie à Tripoli, comme l'hôtellerie des Maghrébins est directement gérée par une société des Habous, des villes saintes, qui se trouve à la mosquée d'Alger. Donc on plagie cette initiative, et en 1918, voilà les Britanniques, et notamment le haut commissaire britannique en Égypte, qui va essayer de reprendre cette idée, cette initiative, et qui voit la possibilité de développer un centre d'influence à la Mecque, à un moment où on commence à sortir de la guerre et les sujets de l'Empire se font de plus en plus contestataires. Et donc on va nommer une commission d'études composée de musulmans d'Inde, d'Égypte et du Soudan qui est envoyée au Hedjaz. Mais simplement le climat politique tendu, notamment en Inde, c'est à cette époque-là qu'héberge hein, le mouvement du califat, véritablement un mouvement qui essaie d'unir à la fois l'hindou et les musulmans contre la tutelle britannique. Le soulèvement et les protestations des musulmans indiens va conduire en quelque sorte à abandonner cette initiative. Donc vous voyez comment en quelque sorte les empires sont un peu contraints de travailler ensemble, s'imitent, s'empruntent de bonnes recettes, s'imitent mutuellement, et on voit à quel point, à travers cet exemple-là, également, la Grande Guerre a été un moment charnière dans les politiques du pèlerinage européenne. Donc, moment charnière, pour moi, c'est véritablement le moment où on va passer, en quelque sorte, d'une gestion coloniale à une gestion plus impériale du pèlerinage à la Mecque. Ce qui est l'occasion pour nous, en dernière partie, d'évoquer justement la spécificité du pèlerinage français. Pèlerinage français qui a souvent, organisation française du pèlerinage plus exactement, qui a souvent été caricaturée. On a même fait du pèlerinage, de la gestion du pèlerinage tel qu'il était pratiqué en Algérie au début de la Troisième République, un modèle général de relation entre la France coloniale et l'islam. Quand vous lisez les archives des autres pays, des autres empires, ils ont l'impression que la France n'intervient pas en matière de pèlerinage, qu'elle ne fait qu'interdire le pèlerinage. Ou quand elle intervient, le pèlerinage est extrêmement réglementé. En gros, qu'il y a une forme d'hostilité de la France à l'égard du pèlerinage. Alors c'est en partie vrai, mais en partie seulement. C'est vrai qu'au début de la Troisième République, donc au moment où une autorité civile s'implante en Algérie, prenne la suite des autorités militaires, au début de la Troisième République, à la fois le ministère de l'Intérieur et le gouverneur général de l'Algérie ont souvent été amenés à interdire le départ à la Mecque. Pour des raisons qui officiellement étaient des raisons sanitaires, puisque la peste et surtout le choléra étaient présents, comme je vous l'ai dit, dans les lieux saints à cette époque-là, que les médecins sanitaires français sont très influents dans les instances internationales comme à Paris. On voit aussi que certaines années où le pèlerinage, vous voyez, est déclaré net, donc il n'y a pas de risque épidémique, le pèlerinage est quand même interdit. Et il est plus interdit, effectivement, cette fois-ci, pour des raisons politiques. C'est vrai qu'à cette époque, dans les années 1880, on assiste en quelque sorte à, comment dire, des rapports entre les autorités coloniales et l'islam qui peut faire songer à ce qui se passe en métropole au même moment et notamment au combat que mènent les républicains contre les catholiques. C'est assez frappant de voir que le pèlerinage à la Mecque est interprété en termes catholiques, que le sultan calife ottoman est appelé pape de l'islam. On va accorder une influence démesurée aux confréries soufis. C'est que l'islam nord-africain est beaucoup un islam confrérie. Et très souvent, dans les archives, à la place du mot confrérie, on va trouver le terme de congrégation. Et on a l'impression que ces confréries jouent un petit peu le même rôle qu'un certain nombre de congrégations catholiques. Donc le pèlerinage est en quelque sorte une institution transnationale et que pour les pèlerins, pèleriner, c'est d'abord aller prêter allégeance au pape de l'islam, qui est alors tantôt le shérif de la Mecque, tantôt le sultan d'Istanbul. Donc vous voyez, il y a une certaine méfiance, il y a une interprétation très politique du pèlerinage à la Mecque. Et puis c'est la Troisième République, marquée par le positivisme, le rationalisme. Le pèlerinage, c'est une école de fanatisme. On craint que le pèlerin ne revienne fanatiser des villes saintes et qu'il n'incite à la révolte. Hein. Vous voyez ce parallèle entre parfois le contagion sanitaire et le religieux, hein, un caractère assez pathologique, une interprétation pathologique de l'islam et de la religion en règle générale. Simplement, alors, c'est une période effectivement assez restrictive, hein, qui s'étend entre les années 1880 et la décennie 1910, mais c'est une période où va commencer à se fixer un cadre général, notamment un cadre institutionnel du pèlerinage français à la Mecque, qui va être maintenu jusqu'aux indépendances, qui va perdurer jusqu'aux indépendances. Alors, quelles sont les caractéristiques, justement? Quelle est un petit peu l'architecture de ce pèlerinage français? C'est une présence, bien entendu, forte, hein, de la puissance publique. Avant les années 1880, presque envie de dire que les déplacements des pèlerins sont très souvent laissés à l'initiative privée. Le pèlerin achète son billet auprès des représentants des compagnies qui sont présentes, et on estime, en Algérie comme en métropole, que la puissance publique n'a pas à interférer dans les forces du marché. Simplement, on s'aperçoit que, en la matière, les compagnies françaises, notamment les compagnies marseillaises, ne peuvent pas rivaliser avec les grandes compagnies anglaises, hollandaises, voire allemandes. Et les pèlerins algériens peuvent s'embarquer souvent à bord de navires britanniques ou allemands, des tarifs préférentiels. Et donc, sur les conseils des consuls de Jeddah, on va mettre en place un système d'agrément à partir des années 1890, où on va décider que ne seront agréés comme navires à pèlerins que les navires qui remplissent des conditions d'équipement sanitaire suffisantes. Vous voyez toujours cette médicalisation du pèlerinage. Comme par hasard, ce sont les navires des compagnies françaises et des armateurs marseillais, notamment la compagnie Cyprien Fabre ou la Société Générale des Transports Maritimes qui remplit ces critères. Donc vous voyez, il y a une forme de nationalisation du pèlerinage pour éviter effectivement que les pèlerins n'échappent en quelque sorte à la tutelle française en voyageant sur d'autres navires. C'est d'ailleurs, ça fait tout à fait tout à fait dans le jeu dans ces années 80-90, ces années de grande dépression des armateurs marseillais qui ont besoin également de développer de nouveaux débouchés. Et puis voir à cette époque une institution très originale qui est celle du commissaire du gouvernement. C'est-à-dire que les pèlerins vont être accompagnés par un agent français qui, dans un premier temps, est un médecin, alors un médecin de colonisation qui fait office de médecin de bord, qui est là pour faire respecter la réglementation sanitaire et qui, au début du XXe siècle, va devenir un administrateur colonial. Donc, systématiquement, les pèlerins vont avoir un administrateur pour les accompagner jusqu'à Jeddah. Un petit peu comme ces caravanes de pèlerinage. Vous savez qu'il y avait un amir al-Hajj, un chef du pèlerinage, un chef de caravane. Eh bien, on va voir des administrateurs coloniaux voyager destination de Jeddah et encadrer les pèlerins. Donc, les administrateurs avec également un pouvoir disciplinaire. L'obligation de veiller au bon règlement, à la bonne application des règlements, mais on fait respecter l'ordre. Et puis aussi, l'administrateur qui est le représentant, il est commissaire du gouvernement, donc représentant du gouverneur général. Donc c'est vraiment l'Empire qui accompagne les pèlerins dans ces navires à pèlerins. Donc il y a un modèle type du commissaire du gouvernement qui est Paul Gilotte, qui a laissé un rapport tout à fait étonnant parce que c'est un album photo que j'ai découvert un peu par hasard dans les archives d'Aix-en-Provence, sous une fausse cote. Et donc on a décidé avec le consul de Jeddah à cette époque, Louis Blin, d'organiser une exposition, parce que ces photos n'avaient jamais été montrées, elles sont de très bonne qualité, une centaine de photographies des pèlerins, de photographies de Jeddah, et ces photos sont accompagnées effectivement du rapport de l'administrateur, parce que chaque administrateur, à la fin de sa mission, va rédiger un rapport très abondant, qui est une véritable mine d'informations pour les historiens, qui est extrêmement précis sur la description des vices simples, le comportement des pèlerins. Donc on a édité ce texte en 2016 aux presses universitaires de Provence avec le CEFAS, alors pour montrer effectivement ces photographies qui sont tout à fait saisissantes, mais aussi parce qu'on a affaire véritablement à un administrateur colonial chimiquement pur. C'est un véritable bonheur, il faut le lire au deuxième degré, que de lire ce Paul Gilotte, qui est vraiment marqué par le positivisme de cette époque, qui pense que le pèlerinage à la Mecque va disparaître, parce que sous l'effet du développement du progrès technique et de la navigation à vapeur, le pèlerinage à la Mecque va perdre de son mystère, et donc va être relayé, effectivement, dans les oubliettes. C'est un administrateur qui est très anglophobe, comme souvent les administrateurs coloniaux à cette époque-là, qui est très très imbu de la mission civilisatrice, de la supériorité de l'Occident sur l'islam barbare. Donc en tant que tel, c'est un rapport qui est très, très représentatif de la mentalité coloniale de cette époque-là. Donc chaque année, on a droit à un, voire deux, trois rapports de commissaires du gouvernement, et j'ai envie de dire, ce jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Donc vous imaginez un petit peu tout ce continuum d'informations qu'on a pour traiter le pèlerinage français. C'est d'autant plus curieux qu'il n'ait pas été traité jusqu'ici. Et puis voilà, donc encadrement physique, et puis naturellement un encadrement réglementaire avec un règlement permanent du pèlerinage qui va être pris en 1894 par Jules Cambon. Alors quand on le lit, c'est un règlement très restrictif, parce qu'il fait mais très restrictif aussi bien pour les pèlerins que pour les armateurs, hein, parce qu'on va détailler de façon très fine quels doivent être les équipements sanitaires, l'alimentation, la composition même des repas des pèlerins, et on va imposer aux pèlerins une série tout un parcours du combattant administratif et financier. Il faut que le pèlerin bénéficie d'autorisation individuelle, il faut qu'il ait un passeport qui justifie d'une somme suffisante, d'un pécule, le fameux minstest, qui justifie d'avoir payé tous ses impôts, qu'il soit de bonne moralité. Enfin, on a l'impression que tout est fait pour dissuader le pèlerin, alors que l'objectif de ce règlement, qui était pris par Jules Cambon, était justement d'essayer d'instaurer des règles permanentes et de mettre fin à l'arbitraire où, parfois, d'une semaine sur l'autre, on pouvait apprendre que le pèlerinage était interdit sur décision du gouverneur général. Tout se faisait par circulaire. Donc l'idée était d'instaurer un cadre réglementaire plus stable. Alors c'est vrai que c'est une logique, vous voyez, quand même, malgré tout, très restrictive, qui peut expliquer que le pèlerinage maghrébin plafonne à 5000 pèlerins l'an, les bonnes années, jusqu'à la Grande Guerre. Là où côté indien indonésien, on est à 15-20 000 pèlerins en moyenne. C'est une logique restrictive qui est critiquée à la fois par les autres empires, parce qu'ils ont l'impression que la France va donner une mauvaise image de l'Europe, que donc ça va renforcer l'hostilité à l'égard des Européens au Hedjaz. C'est des mesures qui sont critiquées par les professionnels du pèlerinage au Hedjaz, par les guides du pèlerinage, qui voient forcément un manque à gagner. J'ai l'impression que la France interdit, empêche les musulmans de partir en pèlerinage. Et c'est aussi un règlement qui est critiqué, je veux dire, en France, hein, à la fois par les milieux libéraux et par les milieux proches du Quai d'Orsay. Par exemple, les consuls de Jeddah sont plutôt hostiles à cette réglementation parce que voilà, ils estiment que ça donne une très mauvaise image de la France et que ça ne contribue pas du tout au rayonnement de la France à l'étranger. On voit aussi des élites musulmanes à cette époque-là qui militent pour le rétablissement de la liberté du pèlerinage. Je publie un autre texte, celui d'un officier musulman d'Algérie, Mohamed Ben Chérif, qui, à la fin de son récit du pèlerinage, milite effectivement pour un assouplissement de la réglementation algérienne du pèlerinage. Et je dirais que tous ces acteurs vont obtenir gain de cause. Ce régime, en quelque sorte, ce qu'on a appelé le pèlerinage à autorisation. D'une année sur l'autre, le pèlerinage peut être autorisé ou interdit, va être supprimé à la veille de la Grande Guerre. Donc c'est une gestion restrictive, je ne sais pas si on peut qualifier ça de pèlerinage jacobin, aujourd'hui on dirait islamophobe, du pèlerinage, qui n'aura, vous voyez, duré finalement qu'une trentaine d'années. Mais on a l'impression que, ça y est, le modèle français du pèlerinage est définitivement constitué et qu'il est emblématique d'un type de rapport de la France avec l'islam. Donc, vous voyez, on généralise ce qui n'a été effectivement qu'une parenthèse à cette époque-là. Et alors qu'en réalité, si on voit sur le temps long, on s'aperçoit que la France a plutôt privilégié un autre modèle, hein, qui n'est pas du tout un modèle de l'interdiction du pèlerinage, mais qui est plutôt un modèle classique de la protection du pèlerinage et de l'accompagnement des pèlerins. Et ce qu'a montré le pèlerinage de la Grande Guerre, c'est qu'il n'a fait finalement que réactiver je dirais, un mode d'organisation plus ancien qu'on avait vu à l'œuvre, vous vous souvenez, au moment de la conquête de l'Algérie, quand je vous ai parlé des convois organisés par Bugeaud. Il ne s'agissait pas d'interdire, mais au contraire, de favoriser le pèlerinage. Et un type de rapport au pèlerinage qu'on pourrait même presque faire remonter, j'ai envie de dire, jusqu'à l'expédition d'Égypte de Bonaparte, en 1798. Et dans les tout premiers mois de l'arrivée des troupes françaises en Égypte, dans l'été 1798, Bonaparte comprend tout l'intérêt qu'il a à protéger la caravane du Caire, la fameuse caravane du Caire. Parce qu'en protégeant cette caravane, non seulement il se donne une image très favorable, on va l'appeler le grand sultan, voire même Ali Bonaparte, à cette époque-là, il veut donner une image qui n'est pas du tout l'image de la Révolution française à l'égard de l'Église catholique. Hein. Il veut donner, au contraire, il est fasciné, il y a une fascination pour la figure du prophète. Je vous renvoie au dernier ouvrage de John Tolan, hein, Mahomet l'Européen. Et donc, Bonaparte va favoriser, bien entendu, cette caravane d'Égypte. Et il entend le faire savoir. Et on va voir toute une correspondance entre Bonaparte et le shérif de la Mecque, hein, Ghalib, à cette époque-là. Et Bonaparte voit l'intérêt diplomatique aussi et constituer une alliance avec le shérif de la Mecque, alors que les Britanniques sont en train de monter des alliances avec les petits émirats de la mer Rouge pour préparer effectivement la riposte. Donc c'est un pèlerinage qui n'arrivera pas à destination, mais voilà, je dirais que ça a laissé un souvenir assez fort de protection du de pèlerinage et d'organisation par la puissance publique. Et donc ce modèle donc, qu'on a vu à l'œuvre dans les périodes de guerre, il va être réactivé dans les années 30. Après la Grande Guerre, il y a une période, dans l'immédiate après-guerre, il y a une période de flottement. D'accord ? On estime que ce pèlerinage chez convoi, ça coûte très cher. On va laisser faire l'initiative privée. Et puis surtout, il existe une société des Habous des villes saintes de l'islam. Donc on va essayer de déléguer l'organisation du pèlerinage à cette association cultuelle. Donc à la fois, on respecte la loi de 1905, et en plus de ça, on fait un petit peu de ligne direct rule à la française. Simplement, ça ne marche pas, parce que les personnalités religieuses, les notables, ont peu d'autorité par rapport aux compagnies maritimes. Et donc, à partir du début des années 1930, on observe une reprise en main par la puissance publique française du pèlerinage à la Mecque, et on réactive ce modèle de la caravane d'Empire, avec son commissaire du gouvernement. Et c'est une organisation officielle qu'on va essayer d'étendre dans les années 30 aux pèlerins marocains, mais également aux pèlerins de l'AOF, qui étaient jusqu'ici plutôt absents des archives, et ces pèlerins d'Afrique subsaharienne, des fédérations africaines, qu'on commence à voir apparaître à cette époque-là. Et on incite des pèlerins, des notables, notamment sénégalais, à venir s'embarquer à Rabat ou à Oran ou à Alger pour en quelque sorte voyager avec leurs coreligionnaires marocains, algériens et tunisiens. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est une logique, bien entendu, c'est de la propagande coloniale. Il s'agit en quelque sorte d'encourager un sentiment d'appartenance à l'Empire. Les années 30 sont des années aussi, on commence à émerger, à monter, hein, l'anticolonialisme à cette époque-là, notamment dans le monde arabe. Donc on a une gestion du pèlerinage assez curieuse, où d'un côté on favorise à bord les différences, notamment en favorisant les différents régimes alimentaires, en évitant qu'il y ait trop de contacts et de collusions entre les pèlerins, mais en même temps on fait en sorte que ces pèlerins puissent voyager ensemble sous les auspices de la France. On va leur organiser, comme je l'avais dit, un peu des croisières. On va s'arrêter notamment à Beyrouth, on va aller par exemple à Damas à cette époque-là. On les fait voyager un peu à l'intérieur de l'Empire. Et puis on fait en sorte que ces différents délégués des différentes provinces soient présentés ensemble au roi Abdelaziz, à Ibn Saoud, pour bien monter effectivement l'unité de l'Empire. Et comme les logiques mimétiques sont toujours à l'œuvre, c'est un modèle, ce modèle du convoi officiel, qui va être copié notamment à partir de 1936 par les Espagnols, plus exactement par les nationalistes, par les franquistes et par Mussolini à cette époque-là. Le premier, donc Franco, pour remercier des soldats de la zone marocaine de combattre aux côtés des nationalistes, et le second, Mussolini, à des fins, très clairement, de propagande. 1936, fin de la conquête de l'Éthiopie, diviser pour mieux régner, Mussolini souhaite effectivement favoriser la minorité musulmane d'Éthiopie. Et plus largement, alors que les rapports, vous savez, du fait de la guerre d'Éthiopie se sont considérablement détériorés avec la France et l'Angleterre, montraient que lui, Mussolini, est véritablement l'épée de l'islam, la spada de l'islam, le seul véritable protecteur des musulmans. C'est-à-dire que le fascisme est une religion et que le fascisme comprend intrinsèquement beaucoup mieux les autres religions et l'islam que ces libéraux français et britanniques qui ne sont effectivement que des impies. Donc il y a toute une propagande qui est faite de l'Empire italien. On va voir des pèlerins qui sont directement financés par les fascistes, chanter les louanges du Duce à la Mecque. Et le modèle d'organisation qu'on utilise est celui effectivement du convoi organisé avec les commissaires du gouvernement. Ce que les Britanniques appellent des propaganda caravans, des caravanes de propagande de l'Italie fasciste. La Deuxième Guerre mondiale, elle va être marquée par une série d'interruptions dans ces pèlerinages d'Empire. Donc, côté français, bien entendu, le régime de Vichy ne souhaite pas, depuis l'Algérie, organiser de pèlerinages. Du côté des mandats du Levant, on co-organise avec les Britanniques. Du côté britannique, du fait de la guerre du Pacifique, on va être amené à interrompre le pèlerinage indien à deux reprises. Donc vous voyez, il n'y a pas cette continuité qu'il pouvait y avoir pendant la Grande Guerre, ce qui va profiter notamment la propagande égyptienne à cette époque-là. Mais contre toute attente, la France va réactiver, dès l'après-guerre, en 1946, ce modèle du convoi de pèlerinage, notamment dans le cadre de ce nouveau projet qui est l'Union française. Essayer de créer une espèce de fédération impériale. Et donc, on voit dans le pèlerinage à la Mecque une manifestation unitaire qui permettrait justement de manifester en quelque sorte ce nouveau projet colonial. Et puis, l'après-guerre, 45, c'est l'État-providence. Donc, on va essayer d'avoir une gestion assez sociale du pèlerinage, notamment en faisant en sorte que des pèlerins plus modestes, aussi bien entendu des anciens combattants, se voient attribuer des places pour partir en pèlerinage, puisqu'il y a une logique de quotas, et il y a peu de navires, donc on est obligé d'attribuer des places contingentées en essayant officiellement de favoriser des pèlerins modestes. Quand on lit des écrivains comme Kateb Yassine, célèbre écrivain algérien, qui a publié un contre-récit de pèlerinage en 1949, quand on le lit, il lui dit que ce sont plutôt toujours les mêmes pèlerins qui vont en pèlerinage. Il en croise certains qui ont fait le pèlerinage depuis la 12e fois. En gros, pour lui, c'est les béni-oui-oui de la colonisation qui systématiquement font le pèlerinage au-delà des objectifs généreux affichés par les autorités coloniales. Mais la particularité aussi des pèlerinages de l'Union française, c'est que jusqu'ici, on avait affaire à un pèlerinage qui était surtout un pèlerinage maghrébin. On souhaite l'étendre à l'ensemble des provinces de l'Empire, que ce soit provinces de l'océan Indien, Djibouti, les Comores, minorité musulmane de Madagascar aussi, mais aussi aux pèlerins de l'AEF. Voir aux pèlerins, effectivement, envoyer notamment aux pèlerins tchadiens. Et donc, on va essayer d'organiser, à cette époque-là, des espèces de pèlerinages, un peu comme on faisait des croisières noires en années 30 avec Citroën, un pèlerinage en camion, par automobile, à travers le continent africain, encadré à chaque fois par un commissaire du gouvernement, chargé donc d'accompagner le convoi. Donc, on voit ce type d'organisation, de convoi officiel, est devenu au fil des ans une espèce d'habitus colonial, et c'est très étonnant, surprenant de voir que cette organisation française du pèlerinage va se maintenir en quelque sorte, alors même que les autres empires coloniaux disparaissent ou s'amoindrissent, l'année 40, 47, indépendance de l'Inde, 49, indépendance de l'Indonésie, la France se retrouve quasiment seule à organiser ses pèlerinages coloniaux aux terres d'islam dans les années 50. Ce qui est d'autant plus curieux, c'est que comme cette organisation par quota, par définition, va créer des insatisfaits, elle va être très critiquée. Et en 1950, l'Assemblée nationale va opter pour la liberté du pèlerinage. Donc on va voir des entrepreneurs privés qui vont effectivement émerger un peu partout, en Afrique, au Maghreb. Mais malgré tout, on continue à maintenir des convois officiels pour manifester la présence de la République française dans les lieux saints. Et ce qui est encore plus curieux, c'est qu'en 1956,
Donc après la guerre de Suez, au moment où on assiste à la rupture des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et la France, et bien la France continue toujours à maintenir un convoi officiel à la Mecque. Donc il n'y a plus de consul, d'ambassadeur, il y a un consul officieux à cette époque-là, mais vous avez toujours une sorte de caravane d'empire qui va être maintenue jusqu'à l'indépendance de l'Algérie à cette époque-là. On envisageait même, au moment où l'Union française passe en communauté française, de créer une hôtellerie de la communauté française pour les pèlerins d'Afrique à cette époque-là. Donc vous voyez, c'est une organisation qui, de fait, va être maintenue jusqu'à l'indépendance algérienne en 1962. Donc vous voyez que la France a bien été la France républicaine et laïque, extrêmement présente dans l'organisation du pèlerinage dans ses différentes dimensions. Donc en conclusion, pour terminer, alors que retenir de ce moment colonial du Hajj? Que contrairement à une idée reçue, le choc colonial, pour reprendre l'expression de Pierre-Jean Huizard, n'a pas été un obstacle au développement du Hajj, qu'il a même accompagné, sinon renforcé, sa massification avec l'introduction de nouveaux systèmes de transport et de communication. Ce moment colonial du Hajj a également contribué à introduire une certaine rationalité sanitaire, l'obligation du vaccin, par exemple, rationalité administrative, les passeports, les visas, qui est toujours à l'œuvre. Mais au-delà de ces considérations techniques, au-delà de, je dirais, du rideau de fumée constitué par la propagande coloniale, on est en droit de s'interroger de manière plus profonde, pour savoir si cette période, finalement, n'aurait pas donné naissance à une forme de mémoire partagée du Hajj, à en juger par l'abondance des archives qui sont conservées dans les centres d'archives français, anglais, mais surtout également de l'abondance des récits de pèlerinage publiés par les Européens depuis l'époque moderne, et que je n'ai pas pu aborder ici, mais qui mériterait très certainement de plus amples développements. On va se demander s'il n'y a pas effectivement une forme de mémoire européenne du pèlerinage à travers tous ces récits qui ont constitué véritablement en narration le pèlerinage à la Mecque. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je suis ouvert à vos questions.